Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai parlé la semaine dernière et les semaines d'avant du logement et du débat entre logement collectif et maison individuelle. Je reparlerai de cela à propos des problèmes, on peut dire, du foncier et également du logement comme produit financier. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose, d'un sujet qui est tout de même un sujet d'actualité, puisqu'il s'agit de la politique actuellement menée par le gouvernement pour revitaliser les centres anciens, notamment les centres anciens des villes moyennes et des petites villes. Donc, le gouvernement met une enveloppe de 5 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, pour revitaliser les commerces, mais revitaliser, pardon, d'une manière plus générale, les centres-villes. Alors, mon propos, c'est que avant de mettre de l'argent, il serait intéressant d'analyser les raisons, à travers un historique, et un historique qui peut être plus ancien et aussi plus récent, les raisons de cette situation de désaffection du commerce. Et il ne suffit pas de mettre de l'argent parce que ce serait une politique un peu trop facile qui se passe dans beaucoup de secteurs. On met de l'argent, en fait de l'argent de la dette d'autant plus. Et on pense que le robinet à fric résout tous les problèmes sans avoir eu des analyses préalables. Donc je ne vais pas sortir du domaine qui est le nôtre dans cette émission et on va rester sur ce sujet. Alors, la politique des centres-villes, donc, c'est cette politique qui voudrait revitaliser et revenir à un état précédent. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, de savoir quel était cet état précédent et comment c'était avant. C'est la première question que l'on doit se poser. Est-ce qu'il y a un passé tellement magnifique, glorieux, et on serait sur le déclin? Alors, c'est quelque chose que l'on entend dire dans beaucoup de domaines, mais là, c'est quand même quelque chose de particulier. Alors, il y aurait un imaginaire d'une ville qui serait donc la ville d'origine, la ville du Moyen-Âge, où il y aurait une foule animée, conversant entre elles, avec des échoppes, des commerces, toute une vie qui serait intense. Et cette intensité, puisque c'est un mot que l'on essaie de remettre à la mode, je vous en ai déjà parlé, cette intensité de vie urbaine, eh bien, ce serait effiloché, perdu, et aujourd'hui, il serait temps de la retrouver. Alors, il faudrait rappeler quelques vérités. D'abord, alors sans parler de revenir au Moyen Âge, mais enfin, on peut parler du Moyen Âge. Ce Moyen Âge, il n'y avait pas du tout les commerces, donc comme on peut l'imaginer. Alors, prenons par exemple à Toulouse, le nom des rues, c'est les rues dites commerçantes, sont des rues artisanales. Quand on parle des filatiers, eh bien, on parle des tisserands. Quand on parle des tourneurs, c'est les tourneurs sur bois qui fabriquaient des meubles, des statues, etc. Quand on parle de la rue des Menuisiers, eh bien, il s'agit effectivement tout un réseau d'artisans qui étaient donc au bas des immeubles. Les cours étaient les cours où l'on travaillait. Il n'y avait pas évidemment de vitrines comme on peut voir par la suite ou aujourd'hui. Et donc il y avait des porches avec des trafics, des charrois, des chevaux qui rentraient et des approvisionnements en matériaux. Et on avait du bruit, effectivement, de tonneliers, on parlait de tisserands, de gens qui aussi teignaient les habits. En fait, toute une ville d'activité qui était limitée encore à des quartiers, puisque on peut voir encore aujourd'hui les quartiers résidentiels, j'en ai déjà parlé, autour de la cathédrale qui conserve depuis le Moyen Âge cette empreinte, et les quartiers qui étaient liés à la Garonne, parce que la Garonne, c'était les ports qui amenaient les marchandises. Donc les activités étaient réparties suivant des rues, et on peut dire que l'habitat populaire de ces artisans était au-dessus des échoppes et au-dessus des ateliers. Alors, au cours des siècles, les choses n'ont pas tellement évolué. Et il faut dire que jusqu'à une période récente, mais une période très récente, où on avait encore dans les rues du Vieux-Toulouse, et quand je parle du Vieux-Toulouse, il s'agit bien évidemment de toute la France, et on peut dire même de toute l'Europe, ce mode de répartition des activités était le même partout. Donc, on avait des artisans. Et on peut dire que la fin de l'artisanat, c'est à la fois à la fin du 19e siècle, mais surtout tout le long du 20e siècle, où l'artisanat s'est développé. Prenons par exemple, on parlait de menuisier, les meubles. Les meubles, c'était quelque chose qui touchait le quotidien des gens. Quand on se mariait, les premiers achats indispensables, c'était le buffet de salle à manger, la chambre à coucher, qui représentait d'ailleurs des sommes très importantes par rapport à ce que les gens gagnaient à l'époque. Et donc, on avait des gens qui les fabriquaient. Alors, il y a eu au même moment aussi, par exemple, un meuble Lévitant garanti pour longtemps. Je pense que c'est dans les années 30 où on a eu de la fabrication industrielle, mais c'était relativement peu important par rapport aux menuisiers qui, on peut dire, dans les années 60, fabriquaient des meubles pour les gens. Alors, aujourd'hui, tout le monde sait ce que représentent des magasins comme IKEA, mais il s'agit d'un phénomène qui est tout à fait récent, qui est un phénomène qui date, je crois, d'une quarantaine d'années. Donc, on est vraiment dans un changement totalement de mode de fabrication, de mode de commercialisation et aussi de mode de vie, puisque on peut dire, une succession d'objets de mobilier qui se remplacent au fur et à mesure de la vie familiale et aussi des moyens qu'ont les gens, où ils changent de mobilier entre l'étudiant et puis les personnes qui réussissent dans la vie. Bon, voilà. Donc, on a un changement total, et on peut appliquer cela aussi aux vêtements, entre le tailleur qui, encore jusque dans l'après-guerre, faisait les costumes, les habits des enfants, les habits de première communion, et avant que la mode du prêt-à-porter soit généralisée comme l'est aujourd'hui, où on peut dire que ces tailleurs sur mesure n'existent que à titre de mémoire pour les habits très chers et sur mesure, et que le prêt-à-porter et sa diffusion avec la fabrication dans des ateliers dans d'autres pays, bon, c'est un schéma que tout le monde connaît. Donc, on est dans quelque chose qui est totalement différent. Il faut rappeler aussi que quand on voit la ville d'aujourd'hui, donc les transformations qui ont eu lieu dans on peut dire dans les 20 dernières années, dans les 30 dernières années. Regardez par exemple la rue des Filatiers, qui est devenue au fil des ans et dans dans les, on peut dire, 5 ou 10 dernières années, une rue qui est exclusivement une rue de restaurant. Alors, là aussi, il faut rappeler que l'invention du restaurant, ça date pas du Moyen-Âge. L'invention du restaurant est un phénomène moderne, un phénomène, on peut dire, du 19e siècle. Et donc, on ne peut pas imaginer que c'était quelque chose aussi de très ancien. Donc, pour résumer mon propos, on avait dans les rez-de-chaussée des rues, en fait, très peu de commerce. Le commerce n'apparaît que dans, on peut dire d'une manière généralisée, que dans l'après-guerre, où on voit petit à petit disparaître au cours des dernières décennies de l'après-guerre, donc sur une période de 50 ans, disparaître petit à petit les artisans qui sont remplacés par des commerces. Et quand on dit aujourd'hui que les rues commerçantes ont été tuées par les grandes surfaces, il faut rééquilibrer les choses. Alors effectivement, cela est vrai. Mais cela est vrai, en fait, sur une période assez courte. Donc, on va marquer une pause musicale et je vais revenir en arrière, c'est-à-dire en arrière au 19e siècle, pour vous raconter brièvement ce que vous savez certainement, mais enfin, l'invention du commerce moderne en France et dans les autres pays. Et aussi donc les grandes surfaces, le commerce regroupé à l'extérieur des centres-villes, qui est la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, on marque une pause musicale et on va reprendre.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road.
Said,
don't you come back no more.
I didn't understand
you. Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
no more. Oh, now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to me?
Je reprends donc sur le commerce et l'invention du grand commerce du type de ce que nous voyons aujourd'hui dans les hypermarchés à l'extérieur des villes, cette invention, elle est française. Il s'agit du bon marché, le bon marché à Paris, et on peut dire l'inventeur, c'est Aristide Boussicot. Aristide Boussicot, qui était lui-même vendeur, commerçant, et il a eu cette idée géniale commerce, on peut dire du commerce en libre service. Il faut d'abord se rappeler quelque chose qui est d'ailleurs pas très ancien, puisque le libre service n'est arrivé dans nos villes et dans d'une manière assez récente. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait un comptoir qui séparait les réserves où étaient entreposés les produits, et on faisait la queue et on vous servait sur un comptoir, comme ça existe par exemple aujourd'hui dans les magasins de pièces détachées, où on a les pièces détachées derrière et on les commande et on vient vous les amener. Alors c'était à peu près généralisé, notamment dans les commerces d'alimentation où on ne se servait pas. Alors, l'idée géniale de Boussicault, c'est de mettre des départements avec notamment les habits, les chapeaux, mais tous les articles qui étaient, comme c'est aujourd'hui dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, et donc de créer le premier commerce moderne. Alors, ce modèle sera suivi rapidement à l'étranger et dans les autres pays, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, mais c'est une invention française. Donc l'ouverture du premier bon marché, c'est en 1852, c'est-à-dire au milieu du XXe siècle. Le succès sera prodigieux, et puisqu'en fait on a un changement total du monde, du rapport du commerce entre la marchandise et l'acheteur, où il n'y a pas la barrière qui existait de on demande à une personne qui va chercher le produit. Mais c'est vrai que on peut dire, dans les années 60, dans les villages, continuait principe très ancien où on avait le comptoir pour des produits alimentaires, des produits d'épicerie, les merceries, etc., où on n'avait pas soi-même, on ne pouvait pas toucher soi-même les produits et les choisir et aller les payer par la suite. Donc, vous voyez comment les habitudes sont très lentes à évoluer, puisque il faut attendre un siècle, c'est-à-dire en 1952 aux États-Unis, que on voit se créer le premier grand magasin extérieur avec un mall, c'est-à-dire le modèle aujourd'hui des grands hypermarchés extérieurs, et c'est à Détroit. Ça s'appelle le Northland Shopping Center. Je le connais parce que j'ai habité pas très loin, et c'était donc le premier mall et le premier grande surface avec parking tout autour du monde qui a été créé par un architecte qui était d'origine autrichienne, qui a émigré aux États-Unis. Qui s'appelait, ou qui s'est fait appeler, parce que ce n'était pas son nom d'origine, Victor Gruen. Et donc, après, ce modèle s'est répandu à la fois aux États-Unis, et on peut dire, dans les années suivantes, en France, où on a vu dans les années 60 les Mammouths, les Leclerc, etc. Donc, tout cela pour vous dire que le commerce qui était le petit commerce des centres-villes qui avait transformé l'artisanat où on retrouvait des boutiques, est un phénomène qui est relativement récent. Donc, quand on pense à revenir à une revitalisation des centres-villes, en fait, il faut dire que ça a assez peu duré, puisqu'en fait, quand l'artisanat a été remplacé par des boutiques, très rapidement, c'était au même moment, il y a eu les grandes surfaces, et on a eu rapidement le commerce qui était un commerce, on peut dire, familial, un commerce local, qui a été vite remplacé par ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près la même chose dans les dernières décennies, où on a à peu près les mêmes produits dans les grandes surfaces qui sont des magasins internationaux et qui ont remplacé les produits, on peut dire, familiaux ou plutôt régionaux. Donc, cette époque de la rue commerçante, en fait, c'est une époque qui a duré très peu de temps, puisque c'était, comme je vous disais, entre l'artisanat qui occupait les bas des immeubles et qui a été reconquis par des magasins et ensuite... La duplication de, on peut dire, les mêmes équilibres qui se passent entre les grandes surfaces et les rues. Alors effectivement, le problème des villes moyennes est un problème assez complexe. Parce que les grandes villes comme Toulouse, Bordeaux, Marseille, etc., peuvent avoir des boutiques spécialisées. On peut avoir par exemple des galeries d'art, on peut avoir des galeries d'art spécialisées, on peut avoir des magasins d'antiquités qui vont être pour le 18e ou les arts asiatiques, ce qu'on va trouver à Paris par exemple, des quartiers qui vont être dans la rue de Sède par exemple, l'art primitif, et l'équivalent ne se retrouve qu'à Bruxelles. Donc on a des zones de chalandise qui sont même, on peut dire, extra-nationales. Et le cas, par exemple, d'une grande ville, on va trouver des produits spécialisés que l'on va retrouver sur des zones régionales très importantes. Alors, en même temps, bien sûr, vous le savez, se créent les produits qui sont vendus par Internet et avec Amazon ou toutes les manières de chalandise qui peuvent être justement différentes de l'achat direct et qui vont être par le biais de la poste. Donc, le phénomène est un phénomène complexe parce que la revitalisation du bas des immeubles, on peut dire que ce commerce n'existait pas avant, puisqu'il y avait à la fois des artisans, mais ça veut dire qu'il y avait dans les cours des stockages, il y avait dans ces arcades, c'était pas des vitrines, c'était des, on peut dire, l'artisanat et ses stockages. Et ensuite, dans les grandes villes, il peut y avoir des magasins comme des galeries d'art qui bénéficient des progrès techniques ou justement des espaces qui étaient, on peut dire, obscurs ou même sur un plan d'hygiène pas très humide, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, on a les moyens techniques d'assainir tout ça, d'éclairer tout ça et d'avoir des commerces. Donc, cette période, on peut dire, est une période intermédiaire. Et aujourd'hui, le phénomène qui se passe dans les grandes villes, c'est-à-dire l'occupation des rez-de-chaussée pour des activités de pointe qui ne peuvent pas être ailleurs, je vous parlais des galeries d'art, mais on peut l'avoir, par exemple, on peut avoir des articles de sport, des magasins qui sont liés aux loisirs spécialisés, toutes choses qui n'existaient pas avant, qui sont des nouveaux besoins très récents et qui vont exister pour des zones très importantes, mais qui ne peuvent pas être reproduites. Vous ne pouvez pas reproduire, alors ça va être reproduit dans les magasins touristiques que l'on va avoir, par exemple, dans des villes comme Cordes ou Saint-Paul sur la Côte d'Azur, où on a effectivement des villes qui sont des villes d'artistes avec des galeries de souvenirs. Regardez par exemple la ville de Carcassonne, vous avez toute une succession à la fois d'articles de souvenirs, mais aussi les mêmes choses. On va vous vendre les savons, on va vous vendre des mêmes produits. Entre guillemets touristique, mais vous allez le retrouver d'une manière identique, et on peut dire aussi, on va les retrouver aussi dans les zones de chalandise que vont être les malls fermés des grands centres commerciaux, comme on peut trouver aujourd'hui à Blagnac, à Roc, à La Bège ou à Grammont. Donc on a on ne peut pas dire d'une manière caricaturale que ce sont les grands centres commerciaux qui ont vidé le commerce des villes, puisqu'en fait, ces commerces, pour la plupart, n'existaient pas. Le problème de la revitalisation des centres-villes, évidemment, serait de recréer quelque chose qui n'aurait jamais existé. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions, c'est de ne pas s'imaginer de faire revenir un passé, surtout un passé qui n'a jamais existé. Je pense qu'aujourd'hui, le problème des commerces des centres-villes, c'est surtout lié à une politique qui a été celle de rendre ces zones piétonnes. Et donc, de ce fait, le commerce, à part d'acheter des savons et des bougies, si on a acheté des choses un peu conséquentes, ne serait-ce que l'alimentation, on ne peut pas faire 2 kilomètres à pied. Et donc, la politique de rénovation des centres anciens est effectivement une politique qui est contradictoire, contrairement à ce que l'on pense, avec la chalandise, puisqu'on dit en anglais « no parking, no business », pas de stationnement, pas d'affaires, c'est bien ça le problème. Alors ce n'est pas en plus que pour le commerce, ça va l'être aussi pour les bureaux, pour tous les types d'activités, où on ne peut pas demander à quelqu'un de venir faire 1,5 km à pied le jour où il pleut, etc. La solution, elle est effectivement, elle n'est pas compatible avec la piétonnisation. Alors il faut savoir ce que l'on veut. Soit on fait des zones de promenade pour touristes, soit on fait des zones d'activité. Alors évidemment, les zones de promenade pour touristes, avec les magasins qui sont des carteries, comme je vous disais, des marchands de souvenirs. Mais si on veut qu'il y ait une vie réelle, il faut qu'il y ait des parkings. Et des parkings qui soient aussi, si ce n'est gratuit, en tout cas, les zones bleues avec les amendes les parkings qui sont prohibitifs, il faut dire que tout ça est incompatible dans la concurrence que l'on peut avoir avec les grandes surfaces qui sont à l'extérieur, où le parking est gratuit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas doubler le prix de ses achats. Si on va acheter pour 15 euros, si on a 15 euros de parking, il est évident que c'est un véritable problème. Il faut poser ce problème-là, et sans parler effectivement des amendes, sitôt que l'on dépasse les temps. Tout cela est contradictoire, et on ne peut pas avoir donc un renforcement des rues piétonnières, un renforcement des coûts de stationnement, et à la fois pleurer sur la désertification des commerces. Les choses sont liées. Et donc, La solution peut être aussi de construction de parkings gratuits par la collectivité et les fameux 5 milliards qui seraient mis sur la table pour aider les centres-villes par je ne sais quelle politique qui me paraît la plupart du temps inutile parce qu'on ne s'attaque pas au fond du problème, ça serait la construction de parkings et pourquoi pas aussi dans des zones délaissées de faire des parkings en superstructures qui sont moins chères, qui peuvent être d'une architecture de qualité et aussi avoir en même temps que les voitures d'autres magasins et de ce fait revitaliser les centres anciens. Voilà la proposition que je fais qui m'a l'air d'être assez simple et en tout cas qui pourrait être une utilisation réelle de ces 5 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour sauver les centres-villes des villes moyennes. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.